on retrouve notre invité Philippe Martin qui est professeur au département d'économie de Sciences Po, chercheur associé au centre CEPR, le Center for Economic and Policy Research, ancien conseiller économique au cabinet d'Emmanuel Macron et nouveau président du Conseil d'analyse économique. Et je vais vous demander, Philippe Martin, par rapport à ce que vient de dire Ludovic Piétenu sur le couple franco-allemand, quel avenir pourrait avoir ce couple au regard donc des évolutions politiques en Allemagne? On a beaucoup spéculé pour savoir si une grande coalition serait favorable à la France. Au final, on se dit, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec cela, qu'il faudrait que l'Allemagne accepte de desserrer les taux de l'austérité. Est-ce une possibilité et est-ce une bonne chose pour vous?
Sur l'austérité, aujourd'hui, on fait pas d'austérité en France. Hein. L'OFCE, dont on parlait tout à l'heure, disait que la politique budgétaire en France, elle est à peu près neutre. Hein. Donc, c'est pas la question essentielle. Je crois qu'il y a des questions beaucoup plus structurelles et de long terme, mais où en effet, l'enjeu de la coopération entre la France et l'Allemagne est très, très important. C'est la réforme de la zone euro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les choses vont mieux, mais qu'est-ce qui dit que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, on n'aura pas à nouveau un choc financier? Et donc, de ce point de vue,
qu'est-ce que ça veut dire la réforme de la zone euro?
Alors, la réforme de la zone euro. Il se trouve qu'avec 14 économistes français et allemands, on a publié justement des propositions sur la réforme de la zone euro. Et ça signifie en particulier dire plus de solidarité. C'est-à-dire, en effet, on a vu à quel point on a manqué de solidarité pendant la crise de la zone euro, en particulier sur les pays qui étaient le plus affectés par les crises bancaires, financières, etc. Donc, on a besoin de plus de solidarité. Et ça signifie, en particulier, un budget qui permette de faire des transferts en cas de crise vers les pays qui sont les plus affectés. Et puis, ça, c'est un peu l'aspect français, si vous voulez, qui demande toujours, qui insiste sur cet aspect de d'intégration et de solidarité. Et puis il y a l'aspect plus allemand qui est plus de responsabilité. Et en effet, ça signifie qu'il y a un certain nombre de pays qui, dans les années 2000, n'avaient pas été suffisamment prudents d'un point de vue budgétaire. Et donc il y a un autre aspect dans la réforme de la zone euro que nous on défend avec ces économistes français et allemands, dont certains sont plus conservateurs, d'autres plus keynésiens, disons, qui est aussi d'avoir plus de responsabilité. Ça signifie des règles qui deviennent crédibles. Et ça ne signifie pas de l'austérité, ça signifie qu'il faut enfin que les règles budgétaires soient transparentes, qu'on les comprenne. Moi, je mets au défi n'importe qui d'expliquer les règles budgétaires européennes, personne ne les comprend. Et ce qu'il faut, c'est des règles plus simples, mais aussi qui soient plus stabilisatrices d'un point de vue macro. On l'a vu à quel point, pendant la crise de la zone euro, on a fait de l'austérité à contre-temps.
Alors, justement, dans une tribune au Monde, aujourd'hui, un collectif d'universitaires dont Thomas Piketty appelle les dirigeants européens à plus de transparence et de démocratie dans la désignation des membres de la Banque Centrale Européenne, parce que une bonne partie du directoire de cette Banque Centrale Européenne va être renouvelée les 22 janvier et 19 février prochains. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement changer le mode de fonctionnement de la Banque Centrale Européenne? Il y a une partie d'économistes de gauche, je le dis rapidement, qui appelle à un autre mode de fonctionnement, parce qu'il faut peut-être rappeler aussi aux auditeurs, Philippe Martin, que la Banque Centrale Européenne ne joue pas le rôle de banque centrale classique.
Alors, cette tribune, elle fait suite à une autre tribune de vendredi qui allait à peu près dans le même sens. Hein. D'autres économistes, Pierre-Olivier Gourinchas, Thomas Philippon, qui étaient à peu près dans le même sens. C'est-à-dire, il faut plus de transparence et il faut aussi que les personnes qui vont au board de la BCE, qui est extrêmement important. On l'a vu à quel point, si l'euro existe encore aujourd'hui, c'est grâce à la Banque Centrale Européenne et c'est grâce aussi à son indépendance. Je pense qu'il faut le rappeler. C'est-à-dire que si la Banque Centrale Européenne n'avait pas été indépendante, je ne pense pas que l'Allemagne aurait accepté qu'elle fasse une politique monétaire aussi expansionniste, aussi hétérodoxe, hein, il faut bien le dire. Donc l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, dont un certain nombre d'économistes plutôt de gauche disent que c'est une mauvaise chose, il faut quand même rappeler que c'est grâce à elle que la zone euro est repartie et qu'on a fait une politique monétaire très expansionniste. Aujourd'hui, ce sont les Allemands qui, de manière un peu paradoxale, peut-être aimeraient bien que la Banque Centrale Européenne soit un peu plus politique et moins indépendante. Donc moi, je pense que l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, c'est extrêmement important. En revanche, c'est vrai que je pense que la transparence et ce que les Anglais appellent l'accountability, c'est-à-dire la responsabilité politique de la Banque Centrale Européenne, elle est extrêmement importante. La BCE va s'expliquer de manière très régulière devant le Parlement européen sur ce qu'elle fait. Et souvent, c'est pas un dialogue qui est toujours extrêmement facile pour eux. Donc oui, plus de transparence. Et en effet, il y a un enjeu là sur un certain nombre de nominations, puisque Draghi va partir dans quelques années, donc ça va être très rapide. Et le rôle de la BCE sur la politique économique en Europe ne peut pas être sous-estimé.
Et donc, quel pourrait être ce rôle justement à l'avenir? Qu'est-ce qui vous paraît souhaitable aujourd'hui?
Mais je pense que le rôle de la Banque Centrale Européenne, il a été complètement transformé en 2012 quand Draghi a dit « je ferai tout ce qu'il faut pour sauver la zone euro ». Donc il faut que le prochain gouverneur de la Banque Centrale Européenne ait aussi cet engagement.
Donc un interventionnisme assumé.
Oui, un interventionnisme. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit prêt à faire des politiques monétaires hétérodoxes comme ça a été fait pendant la crise de la zone euro, un peu trop tard à mon avis, 2012 plutôt que 2010. Et donc, en effet, c'est un enjeu primordial de stabilité pour la zone euro.
Les risques vous paraissent-ils également aussi importants qu'hier? On a vu en 2008 qu'il pouvait y avoir des répercussions importantes sur des phénomènes économiques qui, a priori, pouvaient paraître secondaires. Là, en l'occurrence, une crise déclenchée par des défaillances de ménages américains acheteurs de biens immobiliers, de ménages modestes. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des bulles sur plusieurs marchés, notamment les marchés actions. Est-ce que vous pensez que l'on est aujourd'hui menacé, Philippe Martin, par des mécanismes économiques aussi dévastateurs que ceux que l'on a observés en 2008?
Alors, il est évident qu'il y aura d'autres crises financières. C'est très facile de dire il y aura une crise financière. Le problème, c'est de savoir, et là, de ce point de vue, il faut que les économistes soient extrêmement modestes. Nous ne savons pas prédire les crises financières. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en aura. Ça, c'est sûr. Mais on ne sait pas quand et d'où elles viennent. Alors, est-ce que ce sera la Chine, puisqu'il y a un certain nombre de problèmes d'endettement extrêmement importants d'entreprises chinoises? Est-ce que c'est un problème de bulle spéculative sur le marché actions? J'aurais tendance à dire que pour le moment, ce n'est pas encore là. Le Bitcoin, c'est un peu la même chose. Alors là, c'est une bulle spéculative, mais sur des montants.
Le Bitcoin, c'est très marginal.
Exactement. Donc, c'est une bulle spéculative complètement délirante, mais en même temps, d'un autre côté, c'est encore très marginal en termes de capitalisation. Donc, c'est pas...
Juste pour rappeler peut-être les montants, 170 milliards à peu près d'euros sur 100 000 milliards. Donc, sur des choses très marginales.
En effet. Pour le moment, on voit pas comment... Donc, la bonne chose, entre guillemets, c'est que la reprise dont on parlait tout à l'heure au niveau mondial, elle est assez équilibrée pour le moment. Mais il faut évidemment se préparer au fait que à un moment ou à un autre, de toute façon, on sait, la planète financière, même si on a quand même pas mal re-régulé depuis la crise, avec le danger de Trump qui lui dérégule complètement. Donc, on voit bien qu'il y a une tentation et un lobby financier pour déréguler très fortement. Il faut qu'on fasse très attention en Europe à ne pas suivre cet exemple. Il y aura un moment, en effet, une crise financière et il faudra à ce moment-là que la BCE trouve les bons outils et donc c'est important qu'elle soit indépendante.
Justement, puisque vous venez...
Et compétente aussi.
Puisque vous venez de parler de la politique économique de Donald Trump, on l'écoute.
Nous avons battu tous les records. Je dis toujours que c'est la plus énorme baisse d'impôts de l'histoire de notre pays. Est la plus grande réforme. C'est vraiment quelque chose de spécial. Nous pouvons enfin dire avec conviction que nous rendons sa grandeur à l'Amérique.
Le discours de Donald Trump, c'était le 20 décembre dernier. Il faut peut-être rappeler, Philippe Martin, en quoi cette réforme fiscale est à la fois une victoire de Donald Trump, probablement la seule chose qu'il ait véritablement faite en un an, avec des répercussions énormes sur l'économie américaine.
Oui, alors c'est la seule chose qu'il a réussi à faire, parce que par exemple sur tout l'aspect protectionniste, pour le moment il n'a pas fait grand chose, et dans une certaine mesure heureusement, parce qu'on n'a pas besoin d'une guerre commerciale aujourd'hui dans le monde. Mais sur l'aspect fiscal, bon, alors là c'est évident que ça va avoir un impact sur les inégalités extrêmement important, puisque c'est en gros on va prendre aux pauvres pour donner aux plus riches.
Ce qui est original.
Oui, c'est une manière de faire. Ça va avoir un impact. Alors ce qu'il faut voir, c'est que ça va avoir un impact sur la croissance, sur l'investissement, en effet, parce que alors c'est en partie une explication de la bonne santé des marchés boursiers, hein, évidemment. La bourse aime quand on lui redonne de l'argent en termes de profit. Mais d'un point de vue de long terme, c'est évidemment pas ça qui va faire que la croissance américaine retrouvera des niveaux élevés. Et donc, c'est une réforme qui, à mon avis, est extrêmement mauvaise.
Mais justement, parce qu'on a l'impression que tous les pays, y compris la France, d'ailleurs, je vous le dis parce que l'on sait que vous êtes proche d'Emmanuel Macron, vous avez travaillé avec lui, on a l'impression que tous les pays s'acheminent vers une politique de plus en plus favorable aux riches. Et je lis dans un petit livre qui vient d'être publié, un livre signé Anton Brender et Florence Pisani sur l'économie américaine, la part des 0,1% qui gagnent le plus aux États-Unis est désormais supérieure à celle des 50% qui gagnent le moins. On a l'impression que on revient à des temps ignorés en matière d'inégalité économique, déjà sur les États-Unis, Philippe
oui.
Martin.
Oui, on revient à des situations qui sont celles de la fin du 19e siècle, la belle époque. Et donc, en effet, on revient à des niveaux d'inégalité aux États-Unis qui sont extrêmement élevés. C'est un peu la même chose. Alors, dans une moindre mesure en Grande-Bretagne. Je rappelle quand même que dans l'Europe continentale et en France, on n'a pas eu cette explosion hein, des inégalités, même si les inégalités de patrimoine sur les plus riches ont en effet augmenté. Mais en France, on a relativement bien résisté à cette augmentation des inégalités. En revanche, je pense qu'en France, il faut la question essentielle, c'est au bas de la distribution des revenus. C'est là en effet qu'il faut donner plus d'opportunités. On en parlait tout à l'heure. Hein. Le gros problème de la pauvreté en France, c'est le taux de chômage. C'est le taux de chômage d'un certain nombre de personnes qui ne retrouvent pas un emploi. Donc, moi, je pense que c'est très important de se préoccuper de la question des top 1%, des top 0,1%, mais je pense que l'essentiel du problème en France, hein, c'est les 10% les plus pauvres.
Oui, sauf qu'on peut se demander si, à partir d'un certain seuil d'inégalité, on ne verse pas dans une autre société. Là, on n'est plus dans l'économie, mais quasiment dans l'anthropologie. C'est-à-dire à partir du moment où on a effectivement un écart de salaire tel qu'on a deux types de populations qui ne vivent plus dans le même pays. Pensez-vous qu'on puisse encore continuer à faire société ?
Non, c'est pas soutenable et on l'a bien vu. Alors, et c'est le paradoxe aux États-Unis, c'est-à-dire que non seulement on a une société extrêmement inégalitaire, mais d'un point de vue, ça a une traduction politique, c'est-à-dire que les riches achètent l'élection et on l'a vu avec Trump qui se déguise en plus en populiste. Donc on a ce paradoxe qu'en effet cette explosion des inégalités aux États-Unis amène à sa tête quelqu'un qui va encore renforcer les inégalités alors même qu'il s'est fait élire sur un programme populiste.
Et c'est la raison pour laquelle vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'austérité en France, mais on a l'impression que les mécanismes de redistribution, que la capacité pour l'État de financer une partie par exemple de salaires liés à la fonction publique, tout ceci, on a l'impression que c'est complètement bloqué. On n'entend parler que de budget rétréci, que de diète. Comment dire qu'il n'y a pas d'austérité budgétaire dans ce contexte-là ?
Non, alors il n'y a pas d'austérité budgétaire parce qu'on garde un déficit de l'ordre de 3%, que en termes ce qu'on appelle structurel, c'est-à-dire au-delà de ce qui se passe sur le cycle, le déficit va peu baisser hein, en France. Donc, c'est pas maintenant qu'on a une très forte baisse des dépenses publiques. Hein. Emmanuel Macron a dit qu'il voulait diminuer de 3 points de PIB les dépenses publiques d'ici la fin de son quinquennat. Ça n'est pas encore vraiment enclenché. Donc, en effet, les questions difficiles sur là où on va baisser les dépenses publiques, c'est pas encore décidé et c'est ce qui va se faire après. Mais pour le moment, pour 2018, en tout cas, on n'a pas de réduction forte des dépenses publiques.
Mais est-ce que ça vous paraît souhaitable ?
Alors, moi, je pense qu'en 2018, c'est ce qu'on avait écrit avec Jean Pisani-Ferry, on considérait qu'au moment où on fait des réformes structurelles, où on libéralise le marché du travail, etc., on considérait que c'était pas le bon moment en effet, de faire de l'austérité fiscale parce qu'on ne connaît pas de pays qui a fait des réformes ambitieuses en même temps que de faire de l'austérité budgétaire. En revanche, à partir de 2019-2020, et en particulier évidemment si la croissance continue à être forte, il va falloir faire baisser le déficit budgétaire. Je rappelle quand même que la France est un des seuls pays avec un déficit budgétaire encore élevé. On va passer en dessous des des 3%, mais grâce surtout au fait que la croissance repart. Et j'entends parler de temps en temps de la cagnotte, donc c'est un vieux débat qui repart, du fait qu'il y aurait des rentrées fiscales et qu'il faut surtout les dépenser. Non, en bon keynésien, hein, moi je considère que quand la croissance va mal, il faut faire de la résilience fiscale, il ne faut pas hésiter à faire des déficits, mais en revanche, quand la croissance va mieux, il faut utiliser cet argent pour réduire la dette, justement pour se préparer pour, en cas de crise, pouvoir faire de la relance fiscale.
Alors justement, si on fait toujours de la prévision, on a appris la semaine dernière...
On est très mauvais sur la prévision, comme vous le savez.
La prévision est aussi compliquée en économie. On a appris la semaine dernière que la natalité française allait moins bien, qu'on faisait moins d'enfants. On apprend aussi aujourd'hui qu'il y a un durcissement du discours d'Emmanuel Macron au sujet donc de l'accueil d'immigrés. Et puis on voit toujours dans ce petit livre que j'ai sous les yeux d'Anton Brander et de Florence Pisani que l'économie américaine a été notamment servie par l'accueil d'un nombre important d'immigrés. Est-ce que, si on met de côté la dimension politique, qui n'est pas évidemment à ignorer, mais qui n'est qu'un aspect de la chose, est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de vouloir accueillir moins d'immigrés sur le plan économique ?
Alors, je crois que, enfin bon, ça c'est quelque chose, typiquement, c'est une note du Conseil d'analyse économique sur les implications économiques de l'immigration. Si on revient sur ce que les économistes disent sur l'immigration, c'est que de fait, l'immigration, ça a un impact positif sur la croissance à long terme. Et alors, la question c'est en effet, qu'est-ce qui se passe sur le court terme hein. Il y a des débats entre les économistes, mais en général, ce qu'on voit, c'est que lorsque vous accueillez plus d'immigrés, il peut y avoir peut-être à court terme un effet sur les salaires des moins qualifiés, mais qui assez rapidement est éliminé. Et donc l'immigration, pour les économistes, au-delà de la dimension politique d'accueil des immigrés, comment on fait pour les intégrer, ce qui demande c'est un investissement en fait, c'est un investissement. De fait, l'immigration pour les économistes, c'est plutôt quelque chose de positif.
Aujourd'hui, on a suffisamment de recul sur la situation en Allemagne pour voir à peu près quelles ont été les conséquences de l'accueil donc d'un million, je le rappelle, de réfugiés, de demandeurs d'asile. Je rappelle également qu'en France, on est plutôt sur des chiffres entre 25 et 30 000.
Oui, c'est tout petit en France, l'accueil, alors qu'en Allemagne, c'est pratiquement un million de personnes. Donc c'est un choc sur le marché du travail très important. C'est un petit peu tôt pour en voir tous les effets, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation du taux de chômage et que pour le moment, le gros effort, le gros problème, en effet, c'est un effort d'investissement parce qu'il faut apprendre la langue à ces personnes, il faut les reformer ou les former. Et donc, c'est un gros investissement, mais c'est un investissement sur l'avenir.
Depuis le début de ce dialogue, Philippe Martin, vous dites, en économie, on a du mal à prévoir. En économie, on sait peu de choses. On a l'impression que le débat entre chercheurs, entre économistes, est souvent escamoté. Est-ce qu'il est aujourd'hui possible pourtant d'avoir des certitudes dans votre discipline ? Est-ce que vous trouvez que le débat économique n'est pas suffisamment mis sur la place publique ?
C'est un des enjeux du Conseil d'analyse économique. Le Conseil d'analyse économique, on va pas dire qu'on a une vérité absolue. Moi, je ne crois pas du tout que la science économique ce soit une science dure où il y a une vérité unique. Je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement ouvert et extrêmement modeste. Je trouve que le débat économique s'est amélioré ces dernières années. Bon, évidemment, on a tous des biais politiques et des biais idéologiques et il faut les reconnaître et il faut être transparent sur ces biais. En même temps, je crois qu'on crée beaucoup de connaissances. Je pense que, moi, j'invite évidemment tous les auditeurs de France Culture à lire les notes du Conseil d'analyse économique. C'est des notes de 7 pages où on fait une synthèse de la connaissance sur un certain nombre de sujets, sans escamoter justement le fait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne sait pas, qui évoluent. Mais aujourd'hui, il y a un renouveau de la science économique en particulier parce qu'on utilise énormément de travaux empiriques sur des données. Donc, ça n'est plus seulement de la théorie. On essaye de tester la théorie. Puis, si on voit que la théorie ne marche pas très bien, on revient aux données, etc. etc. Donc, il y a un aller-retour. Je pense qu'il y a des débats qui sont extrêmement intéressants.
Lesquels, par exemple ?
Par exemple, sur les inégalités, évidemment. Sur, par exemple, le rôle de la concentration des entreprises sur l'augmentation des profits aux États-Unis. Aux États-Unis, on voit que l'investissement n'est pas très fort. On peut se poser la question pourquoi, mais une des raisons, c'est des travaux par exemple de Thomas Philippon, c'est qu'aux États-Unis, justement, vous avez une concentration des entreprises. entreprises avec des phénomènes de monopole qui les induisent pas beaucoup à investir. C'est moins le cas en Europe. Donc il y a beaucoup de débats aujourd'hui. Par exemple aussi, c'est des débats un petit peu théoriques, mais par exemple sur la rationalité des agents économiques. Hein. Pendant longtemps, nos modèles étaient fondés sur la rationalité des agents. C'est quelque chose, je dis pas complètement du passé, mais quelque chose maintenant sur lequel on revient. Et donc il y a plein de choses intéressantes. En tout cas, au Conseil d'analyse économique, il est clair que nous, on va travailler sur un certain nombre de sujets, sur la compétitivité, sur les inégalités, et on va faire des recommandations. Mais évidemment, quand les économistes font des recommandations de politique publique, évidemment, c'est aux politiques de s'en saisir ou pas, de décider. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est de montrer quels sont un peu les arbitrages. C'est pas toujours tout noir et tout blanc. Mais à la fin, c'est évidemment le politique qui décide. Mais nous, on doit dire ce qu'on sait, ce qu'on connaît, avec, encore une fois, toutes les marges d'incertitude qu'on peut avoir. Mais je pense quand même que dans les 10-20 dernières années, les travaux empiriques sur les données nous donnent beaucoup plus de connaissances qu'on en avait, par exemple sur le chômage, sur les inégalités, etc.
Mais alors justement, je vais vous embêter sur les travaux empiriques, parce qu'il y a effectivement de plus en plus de travaux empiriques, il y a de plus en plus de distinctions pour les chercheurs qui travaillent dans le domaine empirique. Le prix Nobel d'économie, Robert Thaler, cette année, a lui aussi fait toute une série de travaux empiriques. Est-ce véritablement la solution? Parce qu'il y a beaucoup d'économistes qui sont d'ailleurs d'horizons intellectuels très différents. Frédéric Hayek, qui est l'un des inspirateurs des politiques libérales, jusqu'à Frédéric Lordon, qui lui se situe de l'autre côté de l'échiquier, sont plutôt très hostiles aux travaux empiriques. Est-ce que finalement les économistes n'ont pas tort d'avoir abandonné le terrain en quelque sorte de celui des intellectuels purs, en conservant une approche conceptuelle et peut-être politique de l'économie? On parlait d'ailleurs d'économie politique avant, Philippe Martin.
Non, mais je pense qu'il faut un aller-retour. Et c'est-à-dire que je pense qu'il faut un aller-retour entre la théorie et les données. Mais je pense que un économiste qui à aucun moment ne regarderait ce qui se passe véritablement dans les données d'un point de vue empirique serait pas, à mon avis, extrêmement intéressant. Donc je pense qu'aujourd'hui, on fait cet aller-retour, on a des théories, on les teste, et puis quand on voit très souvent que ces théories ne fonctionnent pas exactement comme on le pensait, on revient à la théorie. Donc c'est cet aller-retour qui est intéressant.
Alors ça n'est évidemment pas ce que disait Hayek. Hayek ne disait pas que le réel n'avait aucune importance. Hayek disait juste que la capacité qu'on avait aujourd'hui au travers des modèles mathématiques de connaître la réalité économique était trop faible pour qu'on puisse se fier à cela, et que ces modèles économiques, eh bien, bien souvent se trompaient. Et on voit par exemple sur des sujets qui sont aussi cruciaux que par exemple la flexibilité du marché du travail, et que l'on a finalement assez peu de certitudes. Peut-être n'êtes-vous pas d'accord d'ailleurs, Philippe Martin, avec ce type de commentaire.
Non, on n'a pas des certitudes exactes, mais je crois quand même que à la fois les modèles théoriques aujourd'hui sur le marché du travail et puis les travaux empiriques nous disent un certain nombre de choses sur la flexibilité. Par exemple, que si on flexibilise le marché du travail, vous allez avoir à la fois plus de création et plus de destruction d'emplois. Donc, à la limite, la flexibilité du marché du travail, c'est pas ça qui a un impact de premier ordre, par exemple, sur le taux de chômage.
Mais alors, vous voyez bien, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, parce que vous dites cela, vous êtes proche d'Emmanuel Macron, vous avez été son conseiller à Bercy. Est-ce que ça n'est pas un peu frustrant pour un économiste comme vous d'avoir des certitudes en économie?
Non, je ne suis pas certain d'avoir des certitudes, justement.
Non, en tout cas, vous avez des conclusions au travers de modèles.
Non, j'ai des conclusions, et ensuite, j'ai des conclusions, et en effet, après, à la base, il faut faire des recommandations de politique publique. Donc, en effet, il y a un moment où il faut choisir. Alors, on choisit, on a des biais politiques, c'est une évidence, mais on essaye le plus possible, et en tout cas, au Conseil d'analyse économique, on essaye de se détacher le plus possible de ces biais politiques, pour fonder nos recommandations sur ce que les économistes ont fait en termes, par exemple, empiriques, sur des données, en particulier sur des données françaises.
Mais il n'y a pas que les biais politiques dans la vie, il y a aussi les biais méthodologiques, puisque vous êtes un chercheur, les chercheurs ont un certain nombre d'univers mentaux, ils ne sont pas prêts à en changer. Est-ce que ça n'est pas aussi un problème?
Bien sûr, et ça signifie qu'en particulier, il faut qu'on soit ouvert à d'autres méthodologies que les nôtres, en particulier les modèles simulés, les modèles mathématiques. Je pense que ça signifie politique, il faut qu'on s'adresse beaucoup à d'autres sciences sociales, que ce soit la sociologie, le droit, la science politique. Il faut qu'on soit plus ouvert, et c'est comme ça qu'on aura un impact plus important aussi sur le débat économique. Je rappelle en France que les économistes sont pas très présents, en particulier dans la haute administration ou dans les postes politiques, contrairement à d'autres pays, aux États-Unis avant Trump, évidemment.
Merci Philippe Martin d'avoir accepté de nous présenter votre vision du monde. Vous qui êtes nouveau président du Conseil d'analyse économique, vous restez avec nous parce que mes camarades vont vous présenter leur vision du monde à eux. Aurélien Bélanger dans quelques instants sur les centres commerciaux et Mathilde Serrel immédiatement sur le retour de la série Le Baron Noir. Bonjour à tous les deux.